Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Deux propositions de loi susceptibles de valoriser des millions d'hectares des terres arables de la RDC. En examen à l'Assemblée nationale, l'une d'elles reconnaît désormais aux peuples autochtones longtemps marginalisés le droit d'être propriétaire des terres. Difficulté de fonctionnement pour le centre de santé de Sota dans l'Ituri. En cause, l'insécurité persistante dans cette zone. Les responsables de ce centre médical ne savent à quel sens est voué, constat d'une équipe de la MONUSCO en visite sur place. Et puis, l'invité de ce journal, le porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Nord Kivu, le lieutenant Anthony Mwalushai, parle de la récente rencontre entre le commandant des opérations Sokola 1 et la population de Butembo. Au menu, le renforcement de la collaboration civilo-militaire pour combattre les EDF. Madame, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale a examiné hier deux propositions de loi susceptibles de valoriser des millions d'hectares des terres arables que régorge la RDC. Il s'agit de la loi sur l'agriculture et celle sur les droits des peuples autochtones. Dans le but d'inciter les bailleurs à investir dans le domaine de l'agriculture, les députés ont examiné le rapport de la commission mixte relatif à la proposition de loi modifiant la loi sur l'agriculture qui accorde désormais des exonérations aux investisseurs, même procédure pour la proposition de loi sur les droits des peuples autochtones pygmées dont le rapport de la commission mixte a été adopté par la plénière. Comme innovation, cette loi reconnaît aux peuples autochtones le droit d'être propriétaire des terres. Écoutez à ce sujet le président de la commission socioculturelle, Léon Mondolé, au micro de Michel Kifindangoy.
Le peuple pygmée sont depuis très longtemps objet de discrimination, d'exclusion et de stigmatisation. Et il était temps que nous puissions penser à légiférer dans le sens de protection de leurs droits, mais aussi surtout dans le sens de leur promotion, pour que nous puissions atteindre l'idéal qui est prévu par la Constitution d'égalité de tout le peuple congolais et égale protection de la loi à tout le monde. Cette loi est une grande innovation, non seulement dans le cadre juridique de notre République démocratique du Congo, mais aussi pour toute l'Afrique, dont je vous informe que nous sommes aujourd'hui là par le processus de vote que nous avons engagé. Nous sommes le deuxième pays à voter une loi qui protège ce peuple que nous considérons à juste titre comme les premiers occupants de notre territoire, la République démocratique du Congo.
Et puis, un collectif des avocats sous le label du cabinet Kabengela propose au chef de l'État de demander au Premier ministre la démission de son gouvernement. Aucune coalition ne peut exister sans que l'informateur ne soit désigné par le président de la République. De même, il n'y a pas d'informateur qui ne soit désigné en cette qualité par ordonnance présidentielle, a martelé l'avocat et doyen du Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete, conseil près la Cour pénale internationale. Au cours d'une conférence débat hier à Kinshasa, Jean-Marie Kabengela Ilunga a procédé à l'analyse des conditions constitutionnelles de cohabitation et de coalition conformément à la Constitution, compte tenu du dysfonctionnement actuel, dit-il, des institutions du pays. Jean-Marie Kabengela justifie sa proposition au micro de Jeff Ngoy.
Les choses étant revenues à zéro, il appartiendra au président de la République, en considérant le dysfonctionnement des institutions qui préjudicient aux intérêts de la population, de demander au Premier ministre de présenter la démission du gouvernement afin que, en observance de l'article 78 de la Constitution, un informateur soit désigné et que la naissance d'un gouvernement de coalition dans l'esprit, dans la conception du constituant congolais puisse prendre le jour. Il peut arriver que le Premier ministre refuse de présenter la démission du gouvernement. Que ferait le président de la République? Il saisira la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 78 de la Constitution, avec à l'appui des questions du genre si il peut exister un gouvernement de coalition sans nomination d'un informateur.
province de la Tchopo. Cette manifestation hier des victimes des guerres de la ville de Kisangani, elles étaient devant le bureau du PNUD pour faire entendre leur voix auprès des autorités compétentes, notamment auprès du ministre des Droits humains. Elles exigent le versement des frais de dédommagement dus aux affrontements sanglants entre les armées rwandaises et ougandaises ayant endeuillé la ville de Kisangani dans les années 2000. Elles manifestaient après avoir suivi sur les ondes de Radio Kapi que le ministre des Droits humains a remis à chaque membre de la délégation de leur association se trouvant à Kinshasa un montant d'environ 3 000 $ américains au lieu que cette distribution s'efface sur place à Kisangani. Leur porte-parole, Willy Winnie Mouini Kondo, explique au micro de Jacques Moukonkole.
Nous, les membres des victimes de guerre Kisangani, nous ne sommes pas contents de ce que le ministre a fait, parce que le ministre était sur place à Kisangani. Nous lui avons montré que l'équipe qui est à Kinshasa, ils ne sont pas une équipe qui est valide pour le moment. Tout le monde là, ce sont des déserteurs. Il y avait une nouvelle équipe et on lui avait présenté cette équipe qui est en exercice. Mais ce que nous apprenons à Kinshasa, c'est que le ministre a récupéré la même équipe qu'on avait rejetée à Kisangani et il est parvenu même à donner l'argent à ces gens-là. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les membres des victimes de guerre qui sont acharnés, sont énergés pour présenter notre mécontentement envers le Kapi qui est lui-même. Le monsieur, il est passé pour aller faire sa déclaration. Ce que nous réclamons auprès du ministre, nous les victimes de guerre de Kisangani, de nous amener d'urgence l'argent qu'il avait donné à ces gens-là qui sont à Kinshasa. Les 3 000 $ qu'il a donné là-bas, c'est ce que nous tous, les membres de Kisangani, nous entendons le même montant qu'il a donné à Kinshasa pour les membres qui sont à Kisangani.
Justice, affaire meurtre de l'homme d'affaires Simbangeza et à Goma. Une trentaine de personnes déjà arrêtées et détenues dans les prisons à Goma et à Kinshasa dans le cadre des enquêtes. Entre-temps, le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha, plaide pour l'ouverture à Goma du procès sur ce dossier. Un des militants de ce mouvement pro-démocratie estime qu'un tel procès serait plus pédagogique en faveur de la réduction de la criminalité dans la ville de Goma. Lumumba Kambere le dit au micro de Bernardin Nyangi.
Il y a 35 personnes jusqu'à aujourd'hui qui ont été arrêtées dans ces dossiers-là. Il faut signaler que depuis le début de l'année 2020, il y a plus de 9 changeurs de monnaie qui ont été assassinés ici à Ville de Goma. Donc la sécurité est en train de monter à grande échelle à Ville de Goma jusqu'à ce que Nkeza eux-mêmes, Simba, a été aussi assassiné à 7h20 du matin. Et mercredi, il y a le bus qui est parti jusqu'à la prison centrale de Mounzenze pour aller récupérer tous ces présumés suspects pour les transférer à Kinshasa, à Makala. Nous, en tant que la Lucha, nous nous sommes dit que ce n'est pas normal. Nous sommes en train d'appeler la justice militaire à organiser les audiences au niveau local ici à Goma et que ces audiences soient publiques parce que ces audiences nous serviront non seulement pour que la vérité soit connue, mais aussi ce sera un moyen que la population puisse être au courant ou suivre cela à la loupe, mais aussi pour décourager d'autres malfrats qui sont encore dans la population.
Je vous le disais en titre, en Ituri, le centre de santé de Sota, situé à près de 50 km au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu, éprouve des difficultés de fonctionnement en cause la persistance de l'insécurité dans la zone. Les habitants, principalement les femmes et les enfants, risquent leur vie chaque jour à cause du manque des médicaments. Les responsables de cette structure médicale ne savent pas comment se déplacer vers Nyakunde, la zone de santé voisine, située à une dizaine de kilomètres, pour s'approvisionner en médicaments. Martial Kiza faisait partie d'une équipe de la UNESCO qui a visité cet hôpital le mercredi. Voici son reportage.
Il est 13h local, sous un soleil accablant, lorsque nous arrivons au centre de santé de Sota. Un bâtiment avec 6 locaux et une grande salle d'attente. Cette structure, construite dans les années 90, elle éprouve des sérieuses difficultés pour la prise en charge des malades, dont la plupart des femmes enceintes et des enfants. La sécurité qui prévaut dans la zone ne facilite pas l'approvisionnement de ces centres en médicaments. Elle ne permet pas non plus aux malades de se déplacer vers d'autres structures médical à peine mieux organisé. Samuel Mugara, infirmier au centre de santé de Sota, explique les calvaires que vit quotidiennement les personnels de l'établissement.
Nous regrettons beaucoup quand nous avons reçu les malades. On n'a pas moyen de l'amener encore à la zone pour l'urgence. Par exemple, les femmes enceintes.
Cet enfant de moins de 3 ans qui souffre de paludisme. Avec sa maman, il est sur le lit où il attend d'être admis aux soins. Mais sa mère ne sait pas si sa prise en charge sera assurée en totalité suite à la rupture de médicaments qui s'annonce à cet hôpital. Pour remédier à cette situation, les responsables de la structure demandent que la paix retourne dans la région. De retour de Sota, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Kwilu. Un militaire et un présumé journaliste ont été arrêtés dans la nuit de mercredi 25 novembre à Kikwit pour tentative d'enlèvement du maire adjoint de la ville, Jean-Claude Mongala. Ces personnes sont actuellement en détention à l'auditorat militaire de la ville. Information confirmée par le major Joseph Kasongo, porte-parole des FARDC au Kwilu. Le maire adjoint de Kikwit, qui dénonce le fait ce vendredi, dit avoir reçu bien avant des appels inconnus l'invitant à la prudence. Il affirme qu'il est en insécurité, lui et sa famille. Jean-Claude Mongala, maire adjoint de Kikwit, relate les faits au téléphone de Irène Boma.
Depuis quelques jours, j'ai reçu quelques appels m'invitant à la prudence. Avant-hier, deux personnes se sont présentées un peu dans la nuit devant ma porte. Ils ont trouvé mon garde du corps. Ils se sont présentés comme deux colonels qui sont venus de Kinshasa, qui travaillent à la présidence de la République. Et ils sont de l'état-major des renseignements militaires. Et ils étaient à Kikwit dans une mission secrète du cabinet du chef de l'État. Quand les gardes du corps les ont annoncés, je n'ai pas trouvé prudent de les recevoir. Mais ils ont proféré des menaces à mon garde du corps. Et finalement, comme la situation semblait dégénérer, j'ai alerté les services de sécurité. On a fait la filature et finalement, qui sont tombés dans les filets. On les a traduits à l'auditorat. Quand on est tombé sur eux, un, il semble, c'est un journaliste. L'autre est là, effectivement, est militaire. Après beaucoup de questions qu'on leur a posées, il s'est avéré qu'ils sont venus dans une mission qui consistait soit à m'enlever, soit à m'abattre. Voilà pourquoi j'ai trouvé important de prendre en témoin l'opinion nationale et aussi la MONUSCO sur tout ce qui peut m'arriver après. Parce que, et moi-même, et ma famille, nous sommes en insécurité.
Direction le Maniema. Une pluie torrentielle a causé des grandes inondations dans la nuit de lundi à mardi dernier. On signale des dégâts matériels importants dans la commune de Lubutu. C'est particulièrement sur l'axe routier Lubutu-Walikale au niveau du pont Kalibatete et du pont Lubilinga et aussi sur l'axe routier Lubutu-Punia au niveau du pont Alouza ainsi que sur l'axe routier Lubutu-Maiko au niveau du bloc Matamba dans le quartier Kalibatete. Le député national Stanislas Oleko qui tire la sonnette d'alarme demande une assistance urgente pour les sinistrés, tant des autorités nationales et provinciales que des personnes de bonne volonté. L'élu de Lubutu explique au micro d'Alain Rung-Mushinj.
Pour l'heure, les bilans provisoires fait état 1. d'enclavement de quartiers composant la commune de Lubutu, dont les habitants restent bloqués sans la moindre possibilité d'accéder aux quartiers voisins. 2. Les ponts Lubilinga, quasi engloutis par les eaux à hauteur de plus ou moins 2 mètres, courent le risque d'être emportés par ces mêmes eaux d'inondation. 3. Nous pouvons dire que d'innombrables habitations, tant en pisé, en semi-durable qu'en matériaux durables, sont détruites, entraînant ainsi un nombre important de sans-abri. 4. La circulation étant coupée, les élèves ne savent plus aller à l'école, les marchés centrale n'est plus alimentée en vivres de première nécessité, d'où la hausse des prix de certains produits agricoles tels que la feuille de manioc, l'huile de palme, le manioc, l'arachide. 5. Enfin, le risque de connaître des cas de maladies hydriques.
Kassai Central, près de 58 000 élèves ont repris le chemin de l'école depuis la rentrée scolaire le 12 octobre 2020. Le directeur de la province éducationnelle Kassai Central 1 a livré ces chiffres hier dans un entretien à Radio Kapi. Il attribue ce retour à la reconstruction d'une cinquantaine d'écoles sur environ 550 détruites lors de la crise qu'a connue le Kassai avec le phénomène Kamuina Sapu. À l'occasion, Léon Tosuesue exhorte les communautés à la protection des infrastructures scolaires en province. Le directeur de la province éducationnelle Kassai Central 1 est au micro de Blaise Ndongala.
Le gouvernement congolais a mené un plaidoyer qui nous a aidé à obtenir de Issaïd Diffit et les autres partenaires la construction d'environ 117 écoles, dont 57 avec les fonds de l'Issaïd et Diffit. Avec ces interventions-là, nous avons réussi à remettre à l'école environ 57 900 enfants parmi les 483 000 qui avaient perdu leur scolarité. Jusqu'à ce jour, les écoles construite représente à peine 12%. C'est encore faible. La demande ne fait que s'accroître, surtout avec la gratuité de l'enseignement. Alors, je tire l'attention de la communauté kassaïenne. En une année, nous avons détruit environ 550 écoles. Il n'est plus question de revenir sur des milices, sur la destruction de peu d'infrastructures que nous avons, parce que la reconstruction nous coûte énormément cher.
Actualité internationale. présidentielle au Burkina Faso, le président sortant Roch Marc Christian Kabore a remporté la présidentielle dès le premier tour avec 57,87% des voix. Il dévance Eddy Kombo-Higo, 15,48%. Ce dernier portait les couleurs du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, un parti qui n'avait pas eu le droit de se présenter en 2015 si la formation qui a dirigé le pays pendant 27 ans retrouve une place dans le jeu politique. Les militants restent déçus par ce résultat, tout comme ceux de l'UPC de Zéphirin Diabré, troisième du premier tour, 12,46%. Aux États-Unis, au moment de présenter ses vœux aux forces armées pour la fête des Thanksgiving, le président américain sortant a fait un pas de plus vers l'acceptation de sa défaite. Joe Biden et sa femme Jill ont, quant à eux, livré leur premier message de Thanksgiving aux Américains dans un clip vidéo diffusé sur Internet. Le futur couple présidentiel a appelé à éviter les grands rassemblements familiaux pour limiter la propagation du coronavirus. Et puis, l'Argentine, inconsolable, a fait ses adieux à Diego Maradona. Il y avait encore beaucoup d'émotions hier au lendemain de la mort de Diego Maradona. Après plusieurs rassemblements des supporters à Buenos Aires, des milliers d'Argentins ont défilé devant le cercueil du footballeur légendaire placé à la Casa Rosada, le palais présidentiel. Après cette veillée funèbre, Diego Maradona a été enterré dans la soirée.
L'invité.
Comme annoncé, le commandant des opérations Sokola 1 a échangé récemment avec différentes couches de la population du Butembo Nord Kivu. Le général Peter Chirimwami a sollicité 3 jours durant le renforcement de la collaboration des uns et des autres en vue de combattre la nébuleuse EDF. Ces échanges s'inscrivaient dans le cadre du renforcement de la collaboration civilo-militaire. Pour en parler, nous recevons le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushai, s'entretient avec Alicia Capissa.
Lieutenant Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour.
Que savoir des échanges qu'a eu le commandement des opérations Sokola 1 et la population en ville de Butembo?
Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Cranor a échangé avec la population avec 3 objectifs. Premier objectif, c'est donner l'évolution des opérations baptisées délivrance des Mayangosé, échanger les informations qu'a la population et aussi écouter les recommandations.
Quelles sont les différentes questions qui revenaient pendant les échanges?
Les plus importantes qui sont revenues de temps à autre, c'est d'abord les problèmes d'alerte. La population pense que l'armée n'intervient pas à temps lorsqu'elle est alertée. La population pense que l'armée ne fait rien parce qu'il y a certaines localités ou villages qui continuent à pleurer les morts. Alors, c'était par manque de mécanismes des opérations que la population se pose de telles questions. Mais les commandants secteurs étaient clairs dans ses réponses. Concernant par exemple les alertes, c'est parce que nous canalisons très mal nos alertes. Vous vous imaginez, madame, on informe un député qui est à Kinshasa. Or, si cette population alertait les commandants qui est à ses côtés, les choses allaient très vite.
Qu'est-ce qui a motivé les commandements Sokola d'organiser ces échanges en ville de Butembo?
Nous avons terminé la première phase de nos opérations. Et la première phase consistait à localiser les bastions ennemis et à les neutraliser. Et c'est ce que nous avons fait dans la première phase. Au jour d'aujourd'hui, aucun individu ne peut nous dire exactement là où se trouve un bastion de l'ennemi. Donc l'ennemi qui n'a rien comme force s'infiltre dans nos rangs et tue dans des villages les plus lointains pour se faire entendre. Mais nous avons nos stratégies qui vont être mises en place pendant la deuxième phase qui commence. Et là, tout le monde sera convaincu que nous travaillons.
Quels sont les efforts fournis jusqu'ici par la population dans le sens de la reconstruction de la paix dans la région?
Comme d'habitude, la population collabore avec nous. Mais il y a des gens qui se livrent dans des intox pour diaboliser. On a toujours parlé de mariage civilo-militaire. Les maris, c'est la population. Et la femme, c'est l'armée. Nous, armée, nous sommes jalouses de notre mari qui est la population. Nous ne voulons pas que cette population soit détournée par certaines personnes à mal de positionnement. Nous avons juré de rester ensemble. Nous n'allons pas divorcer aujourd'hui avec la population. Nous travaillons pour la population et la population doit nous accompagner, doit nous aimer. C'est ce que nous voulons.
Au cours des échanges, il a été révélé une certaine complicité de la part de certaines personnes de la ville. Qu'est-ce que vous en dites?
L'ennemi n'est pas congolais. Tuer n'est pas dans les habitudes des Congolais. égorgé n'est pas congolais. Le problème, c'est qu'il y a des traîtres parmi nous, ici à Butembo, ou soit dans la région de Beni en général. C'est-à-dire, ces gens-là qui pensent qu'après ADF, ils n'auront plus des activités. Ce sont ces gens-là qui n'aiment plus que ADF finisse ici. Aucune armée du monde ne peut organiser une guerre pour tuer sa propre population.
Pensez-vous à une effectivité de la collaboration civilo-militaire pendant que la population accuse les FARDC d'être à la base de plusieurs tracasseries dans la région?
Dans chaque mariage, il y a toujours des problèmes. Je n'encourage pas ces quelques actes commis par certains éléments. Ce n'est pas l'armée qui tracasse, ce sont des individus. Dans la chefferie de Bachou, nous avons eu des informations sur de tels cas. Et le commandant secteur était très clair. Il a donné 3 jours au commandant régiment de lui fournir les informations détaillées sur les allégations. Les audiences foraines seront organisées.
La récente évasion des prisonniers à Kankwaï a-t-elle impacté sur le déroulement des opérations dans la région?
Ça impacte négativement sur nos opérations. Nous pensons qu'ils vont encore continuer à commettre des actions sur la population. Mais je tiens d'abord à vous rappeler que nous avons déjà récupéré au moins 700 qui sont déjà dans nos prisons. Si nous voulons réellement que les choses changent, nous devons dire non à tous ceux qui nous divisent. Le Congo appartient aux Congolais, l'armée c'est votre armée. Des erreurs, vous avez tous les droits de dénoncer et aussi apporter votre savoir.
Lieutenant Anthony Mwalushai, merci.
C'est moi qui remercie.
Voilà, c'était là notre invité, le porte-parole des opérations Sokola 1. Par ici prend fin ce journal coordonné par Alain Rungmushinj, supervision de Julien Nyamweni. Alain Ngoy était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.